Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons bientôt nous séparer, mais Dieu permet que nous ayons encore ce moment sous son regard à réfléchir, étudier, comprendre, afin de devenir meilleur. Car je crois que nous avons choisi de venir à ce séminaire dans un but bien précis, celui de croître spirituellement dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pris quelques exemples dans la parole de Dieu pour comprendre l'adversité dans laquelle un homme pouvait lui-même se plonger, l'adversité dans laquelle l'ennemi même pouvait s'immiscer pour nous cribler, l'adversité que Dieu, surtout lui, permet pour faire le vase qu'il veut que nous fassions. Ça se passe des fois bien, on a vu plein d'exemples avec des résultats qui contribuent à faire ce qu'il est écrit dans Pierre, que l'épreuve de notre foi aura pour résultat l'honneur, la gloire, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça c'est le résultat final. J'ai pensé voir encore un ou deux exemples et vous expliquer un principe spirituel pour comprendre l'adversité. Nous allons lire dans le livre de la Genèse quelqu'un qui a mal choisi. Je vous ai dit pendant ce week-end que ce que nous refusons de perdre, c'est ce qui nous perdra. Si Pierre n'avait pas accepté de passer au crible, il aurait dépendu de ses forces et à un moment ou à un autre, le fait de dépendre de ses propres capacités l'aurait perdu. Il a abdiqué, il s'est séparé au niveau de ses pensées, de ses forces propres pour en arriver à dépendre des forces du Seigneur. Et il est devenu l'homme que Dieu voulait qu'il soit. Donc c'était quand même intelligent que Jésus laisse Satan passer au crible. Pierre, tout ça bien sûr en étant contrôlé par l'immense souveraineté de Jésus. Il y a un autre homme qui n'a pas été intelligent. Pourtant son tonton était bien. Dans la Genèse au chapitre 13... Nous avons une famille qui a beaucoup été bénie. Ils ont été bénis matériellement, les troupeaux se sont multipliés, il ne leur est pas possible de rester ensemble. Il faut qu'ils se séparent, ces neveux, ce neveu et ce tonton, il faut qu'ils se séparent. Parce qu'il y a des querelles, il faut prendre une décision. Genèse chapitre 13, verset 7. Nous allons voir un exemple très négatif. Parce que bon, c'était très bien de prendre des exemples positifs, mais il faut quand même aussi comprendre avec d'exemples négatifs, c'est encore plus, ça ressort encore plus. Genèse chapitre 13, verset 7, il y eut querelle entre les bergers et les troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérisiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui. Toute la plaine du Jourdain, vous connaissez certainement la suite. Normalement, la politesse aurait voulu, en plus à l'époque, que Lot dise, écoute, tonton, c'est toi qui choisis. Oui ou non? C'est pas vrai? C'était à Abraham à choisir. Mais lui, Dieu l'a testé, là. Dieu l'a testé. Dieu nous teste. Vous savez, on nous dit parfois choisir. C'est vrai que Dieu nous demande de choisir. C'est valable pour le salut. Bon, là, c'est des tests archi importants. Mais après, dans plein des situations qui se présentent de tous les jours, nous ne nous rendons pas compte que le choix, c'est un test. Et Abraham, l'autre aurait dit, écoute, je suis confus. Abraham, c'est à toi de choisir. Mais là, il a choisi pour lui. Et quelques années après, il a tout perdu. Il n'a pu sauver que sa vie. D'ailleurs, on le voit, si vous avez votre Bible, j'ai dû le marquer, Genèse 19. Genèse 19, 7, le temps a passé, il a choisi pour lui, il a choisi par intérêt. La vallée, c'était quand même plus intéressant que le désert. Vous savez, ça nous enseigne beaucoup, ça. Ça nous enseigne beaucoup. Dans les choix que nous faisons, c'est pas parce que nous choisissons quelque chose de verdoyant que ça va marcher à coup sûr. Je vais vous dire, si vous voulez choisir et ne pas vous tromper, choisissez toujours d'aider les autres et de répondre à un besoin. Si vous ne voulez pas vous tromper, quand vous avez un choix à faire, dites « je le ferai pour le bien des autres ». Et Dieu va vous aider. Regardez le résultat, quand on ne veut pas perdre. 19-16. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. » Voilà ce qui se passe. Il a choisi pour lui et il a tout perdu. Ce que vous ne voulez pas perdre, cela vous perdra. Est-ce que vous comprenez? Dieu sait où vous en êtes. À partir de ce week-end, vous aurez acquis certaines valeurs spirituelles. Vous avez fait certainement des prières. Là, à votre place, assis, personne ne les a entendus, même pas votre voisin le plus proche. Mais voilà, Dieu les a entendus, ces prières. Dieu les a entendus, il va en tenir compte. Quand on dit « Sers-toi de moi, prends-moi », Dieu va dire « Bon, est-il vraiment disponible ?» Parce qu'en vérité, la question qu'il faut se poser, c'est pas « Est-ce que je chante bien ? Est-ce que je prie bien ?» La question que nous devrions nous poser, « Est-ce que vraiment je suis disponible pour Dieu ?» C'est ça la vraie question. Elle n'est pas bien sûr exprimée par un chant, elle est exprimée véritablement par une attitude de cœur. Dieu sait où vous en êtes ce matin, 13 juin 2011. Dieu sait ce que vous pouvez devenir, Dieu sait ce que vous serez dans quelques mois. Est-ce que vous aurez fait des progrès dans quelques mois? Oui. Je reformule ma question. Est-ce que vous aimeriez que dans les mois qui suivent, les progrès soient évidents? C'est un désir de Dieu. Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents. Donc il va y avoir un travail qui va être effectué. Dieu sait ce que vous pouvez devenir, vous ne le savez pas. Vous allez comprendre au travers de cette prédication. Donc si quelque chose dans votre vie vous empêche de devenir ce que Dieu veut que vous soyez, Dieu va s'en occuper. Peut-être que vous ne le savez même pas. Pierre ne le savait pas. Est-ce que Pierre savait qu'il dépendait de ses propres forces? Mais non. Il avait tout quitté. Il ne faut pas oublier quand même, attention, on a affaire à des gars qui avaient tout quitté pour suivre Jésus. Tout. Mais il y avait quand même un truc qui n'avait pas été réglé. Et Dieu voulait le régler. Est-ce que vous avez fait beaucoup de choses déjà pour le Seigneur? C'est fort probable. Mais Dieu voit qu'il y a encore quelques petites choses à régler encore dans votre cœur. Par exemple, on a parlé un petit peu de Paul. Dieu a permis une écharde dans sa vie pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Est-ce que vous pensez que ça aurait été bien si Paul était tombé dans l'orgueil? Dieu a utilisé Jonas. Malgré sa rébellion, bon, ça a bougé, mais Dieu l'a utilisé. Dieu a utilisé Abraham. Pourtant, Abraham, il a menti une fois. Parce qu'il a eu peur. Dieu l'a utilisé. Dieu a utilisé David d'une façon particulière, malgré l'immoralité qu'il a commise à un moment donné. Parce qu'il s'est réellement repenti. Dieu a utilisé Pierre, malgré son reniement. Et on pourrait multiplier les exemples. Mais dès que l'orgueil atteint un homme, c'est fini. Dieu n'aide pas les orgueilleux, Dieu n'encourage pas les orgueilleux. Il y a une parole de Dieu qui est claire, Dieu résiste aux orgueilleux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc s'il voit que l'orgueil va germer dans le cœur d'un homme, Dieu va s'y attaquer. Et il a bien fait, et il valait mieux que Paul reste faible toute sa vie, tout en dépendant de la puissance du Seigneur, plutôt que de s'enorgueillir. Vous connaissez l'histoire de David et de Goliath? Qui ne connaît pas l'histoire de David et de Goliath? Même les païens connaissent cette histoire extraordinaire de cet enfant, de cet adolescent qui a vaincu ce géant de 3 mètres de haut. Même ça, on en a fait des proverbes, des dictons pour expliquer combien le plus petit peut gagner le plus fort. Vous connaissez cette affaire? Israël était en guerre contre les Philistins, je le résume. Hein. Et tous les matins, d'un côté il y avait une vallée, et de chaque côté de cette vallée étaient postés les Hébreux, et de notre côté les Philistins. Et chaque matin et chaque soir, Goliath s'avançait et relevait un défi. Et tout le monde était pétrifiés. Tous les matins, tous les soirs, pendant 40 jours, qui, vous le savez, est le signe de l'épreuve. Et Dieu n'a trouvé personne. Pourtant, dans l'armée d'Israël, il y avait des hommes forts et vaillants. J'ai prêché dernièrement aux frères à l'église et j'expliquais que quand Saül apercevait un homme fort et vaillant, il le prenait dans son armée. Donc, il y avait dans l'armée d'Israël des hommes qui étaient déjà forts et vaillants. Mais tous avaient peur. Parce que certaines situations peuvent nous paralyser. En plus, c'était des insultes que Goliath proférait. Vous êtes des minables, vous n'y arriverez pas, vous êtes des esclaves. De l'air de dire, vous n'êtes pas chez vous, etc. Et beaucoup de chrétiens ont peur, ils disent, on n'est pas chez... Est-ce que l'église, elle est chez elle, sur terre? Bien sûr qu'elle est chez elle. Est-ce que l'église a sa place sur la terre? Et le diable, il essaie parfois de nous faire croire que l'église, elle n'a plus sa place. C'est vrai qu'un jour, elle n'aura plus sa place. Et on va vite le savoir. Quand l'église n'aura plus sa place, les gens, ils le sauront. Surtout les chrétiens tièdes. Ils le sauront que l'église, elle est partie. Mais l'église, elle a sa place. 40 jours, matin, le soir, ça s'appelle du lavage de cerveau. Vous savez ce que c'est un lavage de cerveau? Quand l'ennemi arrive à vous faire croire que vous ne valez plus rien. Et comme par hasard, un matin ou un soir, le papa de David lui a dit « Écoute, demain, tu confieras ton troupeau à un gardien et tu partiras à Ella et tu apporteras des fromages, des pains à tes frères et aux chefs des compagnies. » Et David, ce matin-là, s'est levé. Il était à Bethléem. Moi, j'ai fait cette distance quand j'étais en Israël. J'ai voulu faire cette distance de Bethléem à la vallée de Ella pour m'imaginer un petit peu ce qu'il a vu. Il était très jeune, et voilà, mais il était prêt. En tous les cas, lui, il avait été préparé dans les précédentes adversités. Vous me suivez, vous? Je résume un petit peu ce qu'on a vu pendant le week-end pour que vous compreniez. Il était prêt, le savait-il? J'en sais rien. Une chose qu'il savait, c'est qu'il ne supportait plus que le nom de l'Éternel soit bafoué. Il l'exprimera bien lorsqu'il va interpeller Goliath. Il arrive sur le champ de bataille, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il en parle avec ses frères vont le traiter d'orgueilleux. Vous connaissez l'histoire? Vous voyez, on peut être choisi par Dieu et être incompris de ses propres frères. Qu'est-ce que tu viens faire sur le champ de bataille? C'est pour boire la bataille que tu es venu, hein? On connaît ton orgueil. Alors qu'en vérité, le gars qui a dit ça, Eliab, c'est quelqu'un qui avait déjà été rejeté par Dieu. Je l'ai rejeté, avait dit Dieu à Saül en parlant d'Eliab. Mais peut-être que des fois on exprime ce que l'on vit sur les autres. On peut être jaloux et on peut dire à quelqu'un, ouais, mais c'est parce que tu es jaloux. Enfin, bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'est pour vous dire que même quand on est dans la volonté de Dieu, nos propres frères ne peuvent pas forcément nous comprendre. Et voilà que le roi va entendre qu'il y a un gaffet qui est par là et qui veut relever le défi. Je veux m'adresser aux jeunes. Aux jeunes avec qui j'ai discuté ce week-end, qui ressentent l'appel dans leur cœur. Je peux vous dire, il faut que Dieu soit dans l'affaire pour qu'un roi confie l'avenir de son pays à un jeune homme. Parce que si Goliath avait vaincu, Israël était asservi pendant des décennies peut-être. C'est pour vous dire que c'est Dieu qui incline les cœurs. Vous connaissez cette affaire. Pourquoi Dieu a-t-il choisi David? Parce que nous, on voit les choses du point de vue des hommes et on n'a pas appris l'habitude. Ça, c'est difficile à faire. J'avoue que c'est vrai. Même moi, aujourd'hui, j'ai du mal. À voir les choses du point de vue de Dieu. C'est quand même un autre sujet. Mais enfin, c'est bien que je vous en parle. Dans l'armée d'Israël, il y avait des hommes forts et vaillants. Parce que l'histoire s'est passée comme ça. Est-ce que Dieu avait une autre solution? Est-ce que Dieu aurait pu avoir une autre solution? Oui. Est-ce qu'il aurait pu y avoir ce qu'on voit des fois, on le voit dans des films, on l'a entendu dans l'histoire, etc. Il y avait peut-être des gaillards de deux mètres d'eau. Est-ce qu'il y en avait certainement dans l'armée d'Israël? Oui, puisque Eliab dépassait tout le monde d'une tête. Vous savez, il était de la même taille que Saül. Donc, il y avait des gars déjà de 2 mètres d'eau, des gars forts et vaillants. Est-ce qu'il y en a un qui aurait pu se décider et dire, écoutez, je me décide. Est-ce que ça aurait pu se passer? Je fais pas le poids, mais... Allez, je l'y vais. J'y vais. Est-ce que ça aurait pu arriver? Et là, pendant des minutes, ils se battent un corps à corps qui dure un quart d'heure. Et puis tout d'un coup, clac, ce guerrier d'Israël, bien sûr inférieur à Saül, mais clac, il trouve le défaut de la cuirasse. Et clac, il empale Goliath. Et la victoire est donnée à Israël. Est-ce que ça aurait pu se passer comme ça? Sérieusement, on l'a déjà vu. Que le plus petit gagne le plus fort. On le voit dans des matchs. Non, on l'a jamais vu? Hein? Dans les matchs de Ligue 1, tout ça, de National 1, et... vous l'avez jamais vu? Que les plus petits battent les plus forts? C'est jamais arrivé? Ça arrive dans bien des domaines. Mais voyez, on aurait mis la victoire sur la force militaire. On aurait dit, bon, Goliath, il s'est loupé. Ce soldat, il était quand même capable. Et la gloire ne serait pas revenue à Dieu. Ça aurait été stratégique, militaire. Dieu aurait pu faire comme ça. Il aurait pu, sérieusement. Ça tient debout ce que je vous dis. Mais Dieu a voulu prendre David. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous enseigner un principe. Et c'est ça qu'il faut que nous comprenions. Parce que l'adversité, c'est un sujet qu'on pourrait partager pendant plusieurs jours. Ça, c'est évident, vu le nombre de textes qui en parlent. Mais là... ce n'est pas un militaire qui était un peu meilleur que les autres qui a donné la victoire à Israël, c'est un enfant, enfin un adolescent, c'est un berger, quelqu'un qui n'a aucune compétence militaire, quoique il savait se battre. Il savait se battre. Certains lions et certains ours en ont fait les frais. Il savait se battre parce qu'il avait accepté l'adversité quand elle s'est présentée à la maison. Seul, il a toujours connu l'adversité, toujours. Quand le prophète Samuel, c'était quand même l'homme le plus célèbre de l'histoire, est arrivé dans sa maison, tout le monde a été invité, sauf lui. Est-ce que vous vous rendez compte le mépris que David vivait? Tout le monde était là, tout le monde était là. Tout le monde a rassemblé, vous vous rendez compte, il y a le prophète, il y a un truc qui va se passer. En plus, il vient dans la maison, il veut nous voir, il veut offrir un sacrifice. Tout le monde était là, tout le monde. Et ils avaient oublié David. Et c'est là que Saül a dit, mais ils sont tous là tes fils? Ah non, 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 non. Il y en a un, mais il fait paître le... je ne vous dis pas l'ambiance qu'il devait y avoir à la maison. Tout ça pour vous expliquer que même là, c'est une forme d'adversité. Quand on vous oublie, quand vous pensez que les autres vous oublient, mais écoutez, que les autres vous oublient, vous avez la preuve que ce n'est pas tellement grave. Dieu ne vous oublie pas. Quand personne ne vous remarque, Dieu, lui, il a déjà remarqué. Qui c'est qui avait remarqué David? Ses frères? Son père? Non, Dieu l'avait remarqué quand il était tout seul en train de garder ses troupeaux. C'est pour ça que vous ne savez pas combien Dieu nous regarde quand on est seul. Comment vous vous comporterez demain matin au boulot? Vous serez seul demain au travail, le seul chrétien, dans un environnement hostile, peut-être sympathique, je ne sais rien. Quel que soit l'environnement, en vérité, ça n'a aucune importance. Mais comment vous comporterez-vous demain? Peut-être que Dieu va vous éprouver. Où t'étais ce week-end? À Gap. Moi, j'ai commencé dans une boîte où j'ai travaillé. Où t'étais hier? J'étais à l'église. Ils se sont tous marrés. Et puis je dis, mais marrez-vous. Demandez à Dieu des fois un peu d'humour, vous verrez. Mais je disais, je vous donne ça pour vous aider. Je disais plus rien. Le lundi d'après, alors, t'étais encore à ton église? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit le curé? Ah, c'est pas un curé, c'est un pasteur. Je vous dis ça pour vous aider. Parce qu'il y a des chrétiens, ils veulent tellement bien faire. Oui, j'étais à l'église et le pasteur, il a prêché là-dessus. Il a parlé de Jésus et toi, où t'en es avec Jésus? Et les gens, vous allez leur donner à boire alors qu'ils n'ont pas soif. Mais je crois que le bon sens nous indiquait, m'indiquait qu'il fallait, et je priais pour eux. Et chaque lundi, il me dit, alors de quoi il a prêché ton pasteur? Ah, ça t'intéresse? Et je, volontairement, c'est eux qui venaient me voir. Je vous le dis parce que je crois que le mieux, c'est de susciter la soif. Et ça tournait souvent, bien sûr, ça devait. Mais je suis convaincu que le Seigneur, il regarde quand on est seul. Dieu a dit, j'ai cherché un homme et j'ai trouvé David. Il a cherché, je ne sais pas comment il fait. Il a cherché. Il a passé en revue tout Israël et à un moment donné, bien sûr que Dieu est un souverain, il le savait même avant que David existe. Mais enfin, quand même, c'est important de vivre dans le présent. Et là il regarde, vous me regardez. Non? Mais vous m'écoutez. Mais Dieu regarde à votre cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, vous êtes sérieux, vous écoutez pour apprendre. Mais moi je vous dis que Dieu est en train de regarder comment vous réagissez à ce que je suis en train de vous dire. Et c'est très important que vous le compreniez, parce qu'après, quelle que soit l'adversité, je viens de parler de David, qui a été méprisé par ses frères tout le temps, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui a fait naître ça, je n'en sais rien, ça peut arriver, et Dieu peut le permettre pour vous préparer. Joseph, j'écoutais dernièrement une prédication sur Joseph, et l'enseignant disait, voilà, Joseph était un orgueilleux, et tout le fil conducteur disait que Dieu avait brisé Joseph parce que Joseph était un orgueilleux. J'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas possible. La seule chose que Dieu fait avec un orgueilleux, c'est de lui résister. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu n'aurait pas eu, ou alors Dieu se contredit. Dieu n'utilise pas les orgueilleux. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on prend position, on est confronté à de l'adversité. Mais voyez, Dieu, il agit. Ne luttez pas contre la chair et le sang. Ne vous tracassez pas parce que votre frère, vos frères, vos parents, vos amis dans l'église ne vous comprennent pas. Soyez droit, soyez intègre, faites les choses de la manière la plus consciencieuse. Et Dieu dirigera. Voyez, l'histoire de David et Goliath a commencé avec un papa qui a dit à son fiston, écoute, demain tu vas dans la vallée de Hela et tu apportes du pain et des fromages à tes frères. Voilà comment ça s'est passé. Il aurait pu dire, papa, tu ne peux pas y envoyer quelqu'un, c'est encore, ils vont se moquer de moi. Est-ce qu'il aurait pu demander à quelqu'un d'autre d'y aller? Oui. Est-ce qu'il ne serait pas passé à côté de quelque chose? Parce que des fois, c'est dans des petites choses simples que Dieu nous demande que certaines grandes choses vont se présenter. Vous voyez ce que je veux dire? Apporter du fromage, du pain sur le dos d'un bourricot, je veux dire, c'est pas... Sérieusement, c'était pas la grande affaire. Et si demain votre pasteur vous dit, est-ce que tu peux faire ça? Ah non, moi j'ai un autre ministère. Moi j'ai vu ça. Je me rappelle de ce jeune, un jour on avait un service de baptême, et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux pas ranger ces affaires là? Ah non, moi monsieur Gaud, non, Dieu ne m'appelle pas à balayer, moi. Ce gars, un an après, il avait rétrogradé, il était tombé dans la pornographie. Un gars qui a mis des années à revenir à Dieu. Moi je crois que quand Dieu nous appelle à faire de grandes choses, il nous teste avec des choses petites. Et faites les choses petites avec beaucoup de joie. Faites-le pour le Seigneur. Moi, bon, je le vois des fois. Hein. Vous ne pourriez pas aller chercher Madame Dupont parce qu'elle elle peut pas conduire, elle aurait besoin de quelqu'un. Ah, monsieur, moi, j'ai pas le temps. Et tu le vois, ça? Alors, moi, je ne demande pas pourquoi vous n'avez pas le temps. On chante « Serre-toi de moi ». Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous tester avec des petites choses? Avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous? Peut-être ce sont vos parents demain. Est-ce que tu ne pourrais pas m'aider? C'est peut-être votre maman qui va vous dire, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider à faire ça? Oh, j'ai pas le temps. Mais peut-être que c'est Dieu qui est en train de vous tester. Et même si vous étiez un petit peu en désaccord avec votre maman, avec votre papa, avec quelqu'un, vous ne vous rendez pas compte que Dieu peut vous tester avec des gens qui ne sont pas favorables. Toute l'histoire de David est là. Et il l'a fait. Et il savait, quand on connaît l'histoire, il savait qu'avec ses frères, ça allait mal tourner. Mais ça ne l'a pas perturbé quand ses frères l'ont traité d'orgueilleux. Pop, il est parti. Il a évité une discussion inutile. Et il s'est renseigné. Et après, le Seigneur a dirigé les choses. Le roi a voulu lui donner son armure, il ne pouvait pas la porter, elle ne lui correspondait pas. Et c'est pour ça que j'ai dit à plusieurs qui sont venus me voir, soyez vous-même. Ne vous battez pas avec les choses des autres. N'imitez pas les autres. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Et ce jeune garçon a été dans le ruisseau, il a pris Saint-Pierre, et il en a pris une, et il s'est avancé pour la gloire de Dieu. Moi, j'ai envie de pleurer, parce que je sais que ça s'est passé. Un jeune qui n'avait aucune force, c'est l'image même de la faiblesse comparée à tous ces guerriers, même en Israël, qui étaient forts et vaillants, mais qui intérieurement n'étaient pas armés. Parce que c'est une chose extérieurement de paraître fort, mais si notre force extérieure est dépouillée de force intérieure, vous pouvez être le plus grand guerrier du monde, si vous n'avez pas de courage, vous êtes off. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et David s'est avancé, moi j'aimerais voir ce truc, ça n'a pas été filmé, c'est dommage. Vous n'auriez pas aimé que ce soit filmé? Franchement, le Seigneur, il aurait pu inventer la vidéo plus tôt. Quelle affaire, ce garçon-là tout simple, qui venait juste de poser ses fromages. Vous avez vu comment les choses peuvent vite changer, hein? De livreur à grand héros du Seigneur. Ça s'est passé vite, ça a pris une petite demi-heure. Livreur, héros du Seigneur. Les choses peuvent changer très vite avec Dieu. Et je l'imagine avec sa fronde. Vous avez vu des gars? Vous avez déjà vu des frondes comme ça? Vous avez jamais vu? Moi, j'ai travaillé avec un gars. C'était un arabe, on travaillait ensemble. Et il avait une fronde comme ça. Et avec une. Mais c'était assez beau à voir. Il ne faut pas être dans la vie, monsieur, mais c'est vraiment beau à voir. C'est impressionnant. Mais je crois quand même que, compte tenu de l'épaisseur de David, de Goliath, je pense que Dieu a poussé un peu la pierre. Un peu? Est-ce que vous croyez que c'est possible qu'il y ait eu des cadrages, les anges, hop, est-ce que c'est possible? Voilà, je suis parti, parce que je me fais des films parfois, c'est vrai, des fois je me fais, c'est pour ça que ça fait 2 ou 3 nuits que je dors pas, voyez? Et c'est vrai ça, c'est vrai, je me fais des films, voilà, c'est impressionnant, Spielberg c'est un petit à côté de moi, vraiment un petit. Ça, c'est pas dans la prédication, hein, ça, c'est une blague. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous encourager. Dieu, lui, il choisit pas les choses comme nous. Et faites attention aux bouquins que vous achetez. Moi, je vois des livres aujourd'hui qui sortent dans nos librairies chrétiennes, des livres chrétiens, qui vous exhortent à arriver à votre plein potentiel. Il y a des séminaires aujourd'hui qui, c'est pour ça qu'il faut prier, qui vont vous pousser à chercher en vous la force, la pensée positive. Découvrez votre force. Et moi, je vais vous dire, c'est exactement l'inverse de ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que vous réalisiez que vous êtes faible. Et c'est un principe divin. C'est un principe divin, c'est un principe humain. Un bébé, il y a des bébés là. Ils sont tous portés par les bras de leur maman. Parce qu'ils ne peuvent pas porter. Ils sont tellement faibles qu'ils ont besoin de la force de quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que je veux vous enseigner. C'est un principe. Plus une chose est faible, plus elle a besoin de force. Et c'est ce que Dieu a voulu, il a voulu pour l'apôtre Paul. Il a dit, écoute, je vais te maintenir dans la faiblesse, comme ça tu ne te louperas pas. C'est ça. Moi je suis puissant, tu restes faible, et on fait équipe ensemble. Et Paul dira, mais je me plais dans la faiblesse, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que quand je suis faible, que je réalise que je suis faible, c'est la force de Dieu qui prend le relais. Vous avez compris? Et Dieu veut que nous en arrivions là. Pourquoi Dieu a permis que Pierre soit très faible, pour qu'il puisse enfin devenir fort? Et nous, on nous enseigne le contraire. Alors, on interprète très, très, très mal des versets. Il faut être fort, je suis fort, fort, je suis fort. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Alors, on prend des versets, on a l'impression qu'il faut trouver la force en nous. Mais c'est exactement l'inverse. La force, il faut qu'elle vienne de Dieu. Et l'histoire de David et Goliath est là pour nous enseigner que David, que Dieu, il choisit les choses faibles du monde. Il est Dieu, il est pas obligé. Il n'est pas obligé. Il choisit les choses faibles, il peut choisir des gens forts aussi. C'est pas automatique. Mais ce qu'il faut que nous comprenions bien, c'est que c'est un principe. Plus une chose est faible, plus elle a besoin de force. Et si c'est Dieu qui lui donne cette force, la personne, elle est victorieuse. David l'a expérimenté. L'apôtre Paul l'a expérimenté. Et c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Il ne faut pas que vous disiez, mais oui, mais moi je suis faible, j'y arriverai jamais. Mais c'est bien. C'est exactement ce que Dieu veut. Est-ce que vous comprenez? La seule question que Dieu peut vous poser, c'est pas est-ce que vous êtes fort? La seule chose que la question que Dieu peut vous poser en vérité, c'est est-ce que vous êtes disponible? Ça, c'est autre chose. Parce que vous savez, il faut faire attention entre le désir et la détermination. Je vous pose la question de la part du Seigneur, est-ce que vous êtes disponible pour Dieu? Répondez pas vite fait, répondez sérieusement. Est-ce que vous êtes disponible? Voilà. Tout à l'heure, Dieu va vous. Si vous dites Seigneur, je réfléchis, je sais pas. Bon, ouais. Demain, Dieu va vous tester. C'est obligé. Il va vous tester. Est-ce que vous êtes prêt à ce que Dieu vous teste? Mais il s'amuse pas, le Seigneur. Hein? Il s'amuse pas. Hein? Il vous aime trop pour s'amuser avec vous. Mais il va vous tester. La Bible dit l'Éternel sonde le juste. Est-ce que vous voulez que Dieu vous sonde? Vos regards. Allez, je reformule. Est-ce que vous voulez que Dieu vous éprouve? Les jeunes, vous êtes prêts? Dieu va vous éprouver. Il a, je pense, mille et une façons de vous montrer, peut-être tout à l'heure. Sans que vous ne vous en rendiez compte sur le moment, Dieu va vous éprouver. C'est pour ça que Dieu permet l'adversité dans notre vie, pour que nous arrivions à ne plus dépendre de nos forces. C'est une loi. Regardez comment Dieu va s'y prendre avec Abraham. Abraham, c'était un homme droit, intègre, etc. Et il voulait avoir un enfant. Et il n'a pas eu d'enfant. Et quand le temps passait, à 75 ans, c'est pour ça, ne vous découragez pas, à 75 ans, il commençait quand même à se poser des questions. 75 ans. Bon, vous allez me dire, à l'époque, il vivait plus longtemps, c'est vrai. À 75 ans, quand même, ça commençait à le turlupiner. Alors Dieu, quand même, il a dit, écoute, une nuit, il a dit, écoute, sors de ta tente, sors et regarde les étoiles du ciel. Mais voilà. Écoute-moi, Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et j'imagine Abraham tous les soirs sortir de sa tente. Il a dû le faire, non? Il n'a pas dû le faire, ça, tous les soirs? Enfin, souvent, sortir. Oh, tous mes enfants, ils sont là. Et voilà. Et 9 mois ont passé. Puisque 9 mois, c'est le temps qu'il faut à peu près. 9 mois ont passé. Et rien. 9 mois. Le temps d'une grossesse. 2 ans ont passé. Il devait sortir tous les soirs.
Ah, cette étoile, je l'appellerai... C'est pour moi.
Je ne sais pas ce qu'il a dû vivre. Mais enfin, ça n'a pas duré 9 mois, ça n'a pas duré 2 ans, ça a duré que 25 ans. Il paraîtrait, ça je l'ai lu dans un livre, il paraîtrait que la majorité des chrétiens n'attendent la réalisation des promesses que Dieu leur fait que quelques mois après, ils se découragent. Moi je vais vous dire quelque chose, si Dieu vous a fait une promesse, il l'accomplira. C'est impossible autrement. Moi, Dieu m'a fait une promesse il y a 29 ans. 29 ans. Elle n'est pas accomplie. C'est exactement comme s'il me l'avait fait hier. Je sais qu'elle s'accomplira. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Vous l'avez peut-être même oublié, la promesse, mais Dieu ne l'a pas oubliée. Si vous avez fait une promesse, elle s'accomplira. Et c'est un principe, à 75 ans, bon, il était déjà pas trop jeune, à 100 ans, il était bien sûr encore moins. Et la Bible nous dit, regardez, dans Romains chapitre 4, c'est un principe, vous allez être rassurés, c'est la seule chose, je vous répète, est-ce que vous êtes disponible? Voilà, c'est tout. En fin de compte, l'adversité doit nous amener à une conclusion simple, est-ce que vous êtes disponible? Le reste, il va s'en occuper. Abraham, Romains chapitre 42, chapitre 4, verset 19. Romains chapitre 4, verset 19. Il nous est parlé du comportement d'Abraham dans l'adversité. Il était dans un état de faiblesse totale, puisque quand même, ça commençait à durer cette affaire. Il l'avait 100 ans. Romains chapitre 4, et je vous encourage à méditer ce texte, parce que vous allez voir comment Dieu agit dans l'adversité et dans la faiblesse. Et sans faiblir dans la foi, entre parenthèses, je vous encourage, quand il y a un texte comme ça qui commence avec une parole, tiens, sans faiblir dans la foi, à réfléchir à ce qui est écrit après, parce que ça vous permettra à vous aussi de ne pas faiblir. C'est comme ça qu'il faut méditer. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, elle était passée par ce qu'on appelle la ménopause. C'est sérieux. Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas faibli dans l'adversité. Il n'a pas considéré son corps, ni le corps ménopausé de sa femme. Il a considéré la promesse de Dieu. Et pour rester dans un esprit de victoire, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Consulter les gynécologues du pays? Il a donné gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, ça c'est quelque chose, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Il a glorifié Dieu. Dieu l'a testé. Dieu l'a fait souffrir. Dieu l'a éprouvé. Je fais allusion à plusieurs choses que j'ai partagées avec vous pendant le séminaire. Dieu aurait pu donner un enfant à 75 ans, oui ou non? Pourquoi? Bon, je ne sais rien. Ce que je sais, c'est que Dieu l'a éprouvé. Et il est resté fidèle. Bon, il y a eu un impair avec l'histoire d'Agar, ça c'est clair que ça, il a dû le regretter, il l'a regretté. Mais enfin, tout ça, ça contribue aujourd'hui à la souveraineté de Dieu par rapport à ses plans. C'est autre chose. Mais une chose est certaine, c'est que malgré l'erreur qu'il a faite, Dieu l'a éprouvé. Il n'a pas considéré son corps, le corps de sa femme. Mais c'est pareil pour l'Église. Est-ce que vous considérez aujourd'hui le corps de l'Église? Parce que des fois, sérieusement, sans vouloir mépriser quoi que ce soit, mais quand on voit certaines églises, moi je les trouve éteintes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et la faiblesse, l'intelligence, fait que nous ne devons pas regarder au corps de l'église, mais nous devons regarder à Dieu. Est-ce que Dieu a le pouvoir de redonner la vie à l'église? C'est ça. C'est pour ça que Paul dit, moi, quand je suis faible, ça me va. Parce que quand je suis faible, Dieu donne sa force. Ça m'est arrivé régulièrement d'être fatigué. Très fatigué. Vraiment fatigué. À une époque, ça m'a affolé. J'étais malade et malheureux quand j'étais fatigué. Maintenant, quand je suis fatigué, ça m'est égal. Je dis, écoute Seigneur, je vais à l'église, je me prépare. Ça m'est égal. Parce que je suis... Attention. Je ne suis pas fatigué, parce qu'il y a deux sortes de fatigue. Il y a une fatigue normale. David était fatigué, à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé quand il était fatigué? Je pense que ce sont les fils de Goliath qui ont essayé de lui rendre la monnaie de la pièce. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez cette histoire? quatre géants qui se sont tués d'un coup quand David était fatigué. Heureusement qu'il y avait ses amis. David, il n'a pas dit, attendez. Moi, les géants, j'ai de l'expérience. Non, il était fatigué et ce sont ses amis qui s'en sont occupés. Peut-être que l'exemple de David les avait certainement fortifiés. Il était fatigué, mais il y a la fatigue qui est due à notre négligence. Attention à ça. Ça, c'est dangereux. Mais quand on est fatigué parce qu'on a servi le Seigneur, je peux vous dire, il vous soutiendra. C'est pour ça que c'est un principe. C'est une des leçons les plus importantes. Parler de résultats dans ce séminaire. Voilà. Apprenez à ne pas être malheureux si vous êtes faible. Parce que c'est justement, c'est peut-être le genre d'individu que Dieu cherche. Parce que vous savez, les gens qui se disent, moi je suis fort, moi vous savez, maintenant ça fait 5 ans que je suis chrétien, vous savez, j'ai peur de rien. Moi je préfère quelqu'un qui me dit, monsieur, on le voit souvent, les pasteurs le savent, il y a des gens, ils veulent monter sur l'estrade. Je veux prêcher, monsieur Gour, j'ai reçu un appel. C'est bien. Et puis il y a des gens, on le sent, ils ne veulent pas monter. Et c'est justement eux que Dieu va faire monter. Parce qu'ils réalisent leur faiblesse, et c'est une loi. C'est une loi dans le royaume de Dieu. Dieu a choisi les choses faibles du monde. On peut le lire dans 1 Corinthiens. Regardez, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir sur Abraham, mais regardez dans 1 Corinthiens. C'est un principe. C'est pour ça que ça devrait vous rassurer. Ne dites pas « je suis » parce qu'on entend ça. Alors, il y en a qui disent « oh, je suis vieux, Dieu ne peut plus m'utiliser ». Il y en a qui disent « oh, je suis trop jeune, Dieu ne peut pas m'utiliser ». Oh, je suis trop ignorant, Dieu ne peut pas m'utiliser. Je suis trop bête, etc. Bon, mais ça reste. Mais en fait, est-ce que c'est ça qui est bien? Est-ce que ce sont nos « je suis » qui sont importants ou est-ce que ce sont les « je suis » du Seigneur qui sont importants? Vous voyez? C'est ça, avoir les yeux fixés sur le Seigneur. On a les yeux fixés sur ce qu'il est, lui. Il est le Tout-Puissant. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27, Paul exprime tout ce que je suis en train de vous dire. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. David ne pouvait pas se glorifier. Bien sûr qu'il en a eu humainement un honneur extraordinaire. Mais la gloire, par comparaison, elle revenait à Dieu. On voyait bien que c'était Dieu dans l'affaire, qui avait poussé un peu la pierre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? C'est par comparaison, on voit que si quelqu'un est faible et s'il fait quelque chose, ben c'est Dieu qui le fait par lui. Vous me suivez? Et c'est ça l'adversité. Dieu, entre guillemets, préférera vous rendre faible pour que vous dépendiez de sa force. C'est tout simple. Et que si vous vous appliquez, avec ce que vous avez entendu ce week-end, ça vous sera beaucoup, beaucoup plus facile de méditer tous les textes bibliques sur l'adversité. Et vous verrez que c'est une évidence. C'est de cette façon qu'on apprend, on apprend à s'appuyer sur sa force. Vous rappelez quand Dieu dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et il ajoute, et vous ne l'avez pas voulu, parce que nous, on veut faire. On veut faire, on veut être fort. Je dis non, la force, elle est dans le calme. La force, elle est dans la confiance. Et la confiance, c'est bien sûr la confiance en Dieu. C'est vrai que l'adversité, ça ne nous plaît pas. Est-ce que ça vous plaît l'adversité? Est-ce que Paul a souffert toute sa vie après de cet handicap? Mais vous avez vu tout ce qu'il a fait? Est-ce qu'il était faible vraiment? Quelle est l'image que vous vous faites de la faiblesse? Qu'est-ce qu'a fait l'apôtre Paul après ça? Il a évangélisé toute l'Asie mineure. Il a ouvert des églises partout. Il a formé des pasteurs. Il a formé des anciens. Il a été lapidé. Il a fait naufrage. Il a vécu des trucs pas possibles. Et il termine sa course dans la victoire. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. La couronne de justice m'est réservée. Enfin, moi, je trouve qu'il termine bien. C'est l'idée que vous vous faites de l'homme faible? Mais à cause de sa faiblesse, il avait la force du Seigneur. C'est pour ça, ne dites pas « Seigneur, rends-moi fort, rends-moi fort ». On le chante des fois « Seigneur, par ton esprit, rends-moi fort », tout ça. Oui, mais par sa force, par la sienne. Et tous ces textes, on dit, mais quand même, pourquoi? C'est vrai que Dieu aurait pu donner un gosse à Abraham à 75 ans et demi. Eh non. Il a attendu pour que nous apprenions ce principe que la faiblesse d'un homme permet à Dieu de manifester sa force, à condition, bien sûr, qu'il dépende de lui. Et vous pouvez repartir humain dans un esprit de grâce. Seigneur, je suis faible, mais ça n'a pas d'importance. Je suis disponible. Il me faut aller apporter des fromages aux frangins, eh bien j'y vais. Il me faut aller chercher une grand-mère parce que telle personne ne peut pas y aller, j'y vais. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça qu'on commence à manifester sa disponibilité. Et je reviens à tous ces jeunes, moi je le vois des jeunes des fois même dans l'église. Ah monsieur Gaud, je vais à un séminaire sur l'onction prophétique. Et puis il y a une mamie qu'ils n'ont pas vue depuis 3 semaines. Moi je crois que ça serait bien qu'ils disent, la mamie elle n'est pas là, je vais l'appeler. C'est pas ça que Dieu attend peut-être? Il y a des gens, ils courent, il y a un gars qui est venu dernièrement. Ça va vous faire peut-être rire. Ouais, ça va vous faire rire. Il vient me voir, il me dit, monsieur Hugo, vous savez, j'écoute vos prédications sur internet, j'écoute vos prédications, ça me fait un bien fou, je suis sûr que vous avez une parole de Dieu pour moi. Ah bon? J'ai dit, vous pouvez me raconter ce que vous vivez en ce moment? Alors il commence à me raconter sa vie. Oui, vous savez, j'étais dans tel séminaire, on m'a dit que je serais comme Josué. Ah, j'ai dit, mais c'est bien parti, j'ai dit. J'étais dans un autre séminaire, on m'a dit que je serais comme Caleb. Ah, mais j'ai dit, ça va donner. Vous savez, moi, monsieur Gaud, je ressens un appel pour être un homme de Dieu puissant. Vous savez, c'est quelque chose. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites à Toulouse? Oh, ben, rien. J'ai dit, vous habitez où? Il me dit, j'habite à Strasbourg. Et j'ai dit, vous avez une famille à Strasbourg? Oui, j'ai ma maman. En plus, ma maman, elle a le cancer, elle est malade, elle est toute seule à la maison. Ah. Et j'ai dit, vous êtes à Toulouse? J'ai dit, vous croyez pas que votre place, elle est à côté de votre maman? Vous voulez une parole de Dieu? Vous voulez une prophétie? Alors je lui ai dit, vous savez, celui qui n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Je lui ai pris notre prophétie. Ben ça a changé de Josué, c'est vrai. Je lui ai dit, mais non mais vous riez parce que je le tourne en dérision. Mais je lui ai donné cette parole. Vous savez, quand il est dit, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Mais je dis, voilà la prophétie. Vous vivez dans le désordre, votre maman est en train de mourir, et vous êtes à Toulouse, et vous ne voulez pas bosser, vous devriez avoir honte, voilà la parole de Dieu pour vous. Il s'est levé, il est parti. Il m'a téléphoné 8 jours après, il m'a dit, monsieur Gaud, je vous demande pardon pour l'amertume que j'ai eue contre vous. Mais je vais repartir voir ma maman. J'ai pas d'argent, je dis, ben je vais vous payer le billet de train. Mais partez chez vous et occupez-vous de votre maman. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut être dans la réalité des choses. Il faut arrêter de rêver. C'est bien d'avoir des rêves pour Dieu. On a des séminaires, rêver pour Dieu. Moi, ça me fait peur. Parce qu'on amène les gens dans une espèce d'utopie, d'irréalisme, alors que la vie, c'est terre à terre. David, va voir tes frangins, apporte-leur du pain et du fromage. Et Dieu va vous éprouver. Dieu sonde le juste. Le juste, c'est celui qui va obéir à Dieu. C'est celui qui pratique la justice. C'est celui qui cherche le royaume de Dieu et la justice. Ce n'est pas le chrétien qui vit dans l'illusion. Vous voyez, ce gars, on l'a trompé. La Bible parle des prophètes de paix. Ah, bien sûr que ces gars, ils sont insensés. Ah, rendez compte, tel pasteur, il m'a dit que je ressemblerais à tel personnage de la Bible. Mais on les trompe, les gens. On leur ment. C'est des prophètes de malheur. Il faut être sérieux. David, il a commencé quand il était gamin. Ses frangins le méprisaient. Son père l'a oublié. Tout le monde l'a oublié. Mais Dieu l'a remarqué. Quand je vois que Dieu et Samuel parlaient de lui alors que lui, il ne savait rien du tout, peut-être que Dieu est en train de parler de vous. Est-ce que ça peut arriver, ça? Alors, je ne sais pas si vous ressemblerez à Josué. C'est pas important. Ne soyez jamais quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Mais soyez assez sage pour dire, je suis faible, mais je vais obéir à Dieu. Voilà. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est le genre d'homme que tu cherches? Eh bien voilà, ce matin, je suis prêt. Je suis prêt, je me rends disponible. Puisque ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que vous comprenez l'importance de ça? Vous voyez, c'est des fausses doctrines, tout ce que je viens d'énumérer plus ou moins. C'est des fausses doctrines. Voilà. Dieu, il aime quelqu'un qui dit, voilà, je ne vais pas faire grand-chose, mais ce que tu vas me dire, ce que tu vas me montrer, je vais le faire. Voilà. Tu m'as promis un enfant, il ne vient pas. Seigneur, je te glorifie. Il a été fortifié en rendant gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes capable de terminer ce séminaire en disant, je vais prendre la décision, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez ressembler à Josué? Vous voulez rassembler, vous allez tourner autour de la ville pendant 7 jours? Il y a des gens qui le font, ça. Je fais comme Josué, on tourne autour de la ville. Comment vous le faites? Eh bien, en bagnole, on tourne 7 fois autour de la ville. Et alors, il y a des trucs qui sont tombés? Non, le joint de culasse.
Là, c'est pas vrai, ça.
Mais il y a des gens qui font le tour des voitures, des villes en voiture. C'est ridicule. Ne faites pas des choses que Dieu ne vous a pas demandées. Peut-être que Dieu vous demande de vous asseoir dans le silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Moi, je vous le dis parce que je vais vous choquer peut-être. Mais moi, je ne fais rien. Tout ce que j'ai à faire, je le fais. J'ai mes réunions, ça me sert de repère pour la semaine. Bien sûr que j'ai une vie remplie. Et je suis convaincu que tout ce que Dieu me demande de faire, je le fais. Et je ne cours plus. Et je me suis rendu compte que c'est à partir de ce moment-là que Dieu m'a béni. Je me tiens dans la présence de Dieu. J'ai à cœur quelque chose, je le fais. Je me tiens dans la présence de Dieu, toc, on m'appelle. Monsieur Gou, est-ce que vous pouvez faire un séminaire à Gap? Vous savez où c'est? Hein? Voilà. Et je suis convaincu que faire les œuvres de Dieu, c'est se tenir à son écoute. Hein, tout simplement. Et je répète la question que des Juifs ont formulée à Jésus un jour, parce que l'homme est dans le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça veut dire, reçois. Tu reçois, tu reçois, tu reçois. Et après, ce que tu as reçu va finir par déborder sur les autres. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais si vous cherchez votre force en vous-même, votre force en vous-même, vous ressemblerez à un citron pressé et vous serez fatigué, épuisé, et vous en aurez marre de servir Dieu. Ça sera un fardeau, ça sera une corvée. Moi, je crois que servir Dieu, c'est un honneur. Vraiment. Oui, acceptez d'être faible, acceptez certains handicaps. Vous qui vous dites, délivre-moi de cet handicap pour te servir, et bien peut-être que dites, non, je te maintiendrai dans cet handicap, c'est comme ça que tu pourras me glorifier. On va fermer les yeux quelques instants. Nous terminons, pour ainsi dire, ce séminaire. Je vais prier, puis je demanderai à ma femme de vous dire quelques mots. Je sais que certaines personnes ont besoin d'entendre une exhortation de sa part. C'est la première fois que je fais ça depuis 28 ans que je suis pasteur. Je sais que des sœurs ont besoin d'entendre une parole d'elles. Et je veux obéir. Peut-être que je ferai ça que tous les 30 ans. Mais je sais qu'il me faut le faire. Voyez les jeunes. Voyez les aînés. Le problème, c'est pas l'âge. Le problème, c'est pas la force. Le problème, je le répète, c'est la disponibilité. Dieu va vous éprouver. Il va le faire avec sa sagesse. Il n'y a que lui qui peut faire un truc pareil. Ça ne vous frustrera pas. Ça vous frustrera si vous n'obéissez pas. Vous avez vu Lot, il a tout perdu. Il a choisi pour lui. Il a été sauvé du feu parce que c'était un homme qui, malgré tout, avait mis sa foi en Dieu, mais il s'est retrouvé sans rien. Peut-être que vous vous retrouverez devant Dieu avec d'immenses récompenses. Bon, par contre, ne le faites pas pour ça. Ne le faites pas pour ça. Mais fait quand même, il en parle souvent, parce qu'on a besoin d'être encouragé quand même. Acceptez votre handicap. Acceptez avec joie votre faiblesse. Rendez-vous disponible. Écoutez votre père charnel. Écoutez votre mère charnelle. Écoutez votre pasteur. Dieu va l'éprouver. Vous allez vous dire, oh, moi je lui ai demandé ça, mais ça ne va pas ou quoi? Écoutez votre pasteur. Dieu peut l'utiliser malgré nos défaillances, malgré nos manquements. Dieu peut nous utiliser pour vous éprouver. ne vous braquez jamais contre quelqu'un. Vous gagnerez. David ne s'est pas braqué, il a dit « moi, je n'irai pas voir les frangins ». Quand son frère l'a traité orgueilleux, il n'a pas dit « eh ben, si c'est ça, je repars ». Vous voyez, il aurait pu, on ne calcule pas tout ça. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si c'est ça, ben, je quitte l'église. Il m'a mal parlé. Mais quand vous prêcherez dans une église, si un jour vous prêchez, il y a des gens qui vont se moquer de vous. Quand vous prêcherez un enterrement, il y a des gens qui vont ricaner. Il va y avoir un combat spirituel quand vous prêcherez pour un enterrement qui aura 200 personnes inconverties. Si vous n'êtes pas capable d'affronter du mépris d'une personne dans un huis clos, comment pourrez-vous affronter l'adversité quand il y aura 1000 personnes devant qui vous prêcherez, qu'il y aura des spirites peut-être, des médiums? Si vous n'apprenez pas à vous battre, comment pourrez-vous affronter de grands combats dans la grâce de Dieu? Dieu va vous éprouver. Ça sera plus important que n'importe quelle bénédiction que vous pourriez acquérir. Dieu, il cherche des hommes. Il ne cherche pas des méthodes. Nous, on cherche des méthodes. Dieu, il dit, je cherche des hommes. Un homme. Je vais prier, puis je demanderai à mon épouse de bien vouloir venir, s'il te plaît. Après, nous louerons le Seigneur, nous répondrons. C'est bien de répondre pendant que je prie déjà. Répondez à cette prédication, calez-vous quelque chose. Dites-le au Seigneur. Qu'est-ce qu'il disait David après avoir tué un lion? Je suis le meilleur, je suis le meilleur. Ou est-ce qu'il disait, Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Merci Seigneur. Après ce séminaire, vous devez répondre à Dieu. Vous devez lui répondre. Je vous dis, je le répète parce que je crois qu'il me faut le répéter. Vous me regardez. Prêchez, vous m'écoutez prêcher, c'est normal, c'est moi qui interviens. Mais tout ce week-end, Dieu, il a scruté votre cœur. Il a vu cette jeune fille. Ah, elle est sérieuse maintenant. Ah, elle se remet en question. Ah, elle change d'avis. Ah, son cœur se dilate. Devant ce chant, elle a pleuré. Elle commence à reconnaître ma souveraineté. Ah, elle cherche plus sa propre volonté. Ah, celui-là, ah, il cherche ma volonté. Et Dieu va diriger. Tout. Tout, il dirige. Il peut faire n'importe quoi pour vous amener là où il veut que vous soyez. Et si personne ne vous remarque, Dieu vous a remarqué. Il vous connaît, lui. Il vous connaît. Je connais un homme de Dieu qui a écrit un bouquin. Il a expliqué qu'un jour, il a dû arrêter le ministère parce que Dieu lui avait demandé pour faire autre chose. Il a dit, je vais envoyer des lettres à tous les pasteurs des États-Unis et comme ça, je serai invité pour faire des missions. Et Dieu lui a dit, non, moi je te connais. Eux ne te connaissent pas, mais moi je te connais. Et Dieu a béni cet homme comme ce n'est pas possible. Dieu, il vous connaît. Vous n'avez pas besoin d'être connu des hommes. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Te bénissons de nous enseigner au travers de ces hommes de la Bible ou de ces femmes qui ont changé l'histoire à cause de leur disponibilité. Ils étaient tous comme nous, tous faibles, de la même nature que nous. Mais Seigneur, tu nous as montré qu'en étant disponible, ta force a compensé leur faiblesse et tu t'es glorifié. Enseigne-nous, Seigneur, à ne plus regarder à nous-mêmes, à nos « je suis », enseigne-nous à regarder à ce que toi tu es, le grand « je suis ». Enseigne-nous à accepter chacune de nos faiblesses, de nos manquements, afin de ne dépendre que de ta force. Comme un bébé qui est continuellement porté par sa maman, enseigne-nous à être continuellement porté afin que ce soit ta force qui transparaisse, par simple comparaison. Merci pour ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. Isabelle, s'il te plaît.
Bonjour à tous. Voilà, alors je n'ai pas la parole facile, je n'aime pas me retrouver devant un grand auditoire. Mais voilà, on appartient au Seigneur et on n'a rien à prouver, sinon à partager les choses. Alors je pense que par rapport à tout ce que mon mari a pu vous dire pendant ce week-end, c'est vrai que l'adversité, elle existe dans la vie. Et il y a 3 ans, je suis passée par une terrible tempête. Et avec le recul maintenant, je sais qu'elle a été permise, voulue par Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour cette tempête. Et si je peux, par ces quelques paroles, eh bien, exhorter quelques sœurs ou quelques frères et donner de l'espoir, ça sera pour moi une grande joie. Voilà, il y a 3 ans, j'ai fait, comme on dit, un burn-out. S'il y en a qui connaissent, c'est une dépression qui vient du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, eh bien, des angoisses terribles sont venues sur moi, sur ma vie. Et je ne comprenais pas, parce que j'étais... On a toujours servi le Seigneur avec joie, et ma relation avec Dieu était bonne. Je me réjouissais, je passais des moments dans la présence de Dieu, où je sentais vraiment la présence de Dieu. J'étais heureuse, on était dans le ministère, avec les difficultés qu'il peut y avoir, mais heureuse et bien dans ma peau, comme on dit, hein. Et puis, voilà, du jour au lendemain, il y a des choses qui sont arrivées. Les circonstances ont fait que j'étais entourée de personnes qui passaient par d'énormes épreuves. Et finalement, je me suis chargée de ces épreuves. J'ai porté, j'ai pris sur moi. Je me suis retrouvée dans une période au chômage. Mon papa, tous les êtres que j'aimais, il y a eu des choses difficiles. Je sentais, mon papa a fait des problèmes de santé énormes. Voilà. Il y a des circonstances dans la vie qui font que ça fait beaucoup. Et puis on se rend compte que finalement, on n'arrive plus à gérer tout ça, et tout ça tombe d'un coup, revient d'un coup. Et donc, dans cette épreuve, je me suis retrouvée du jour au lendemain à bien avoir plus de joie du tout et à ne plus rien ressentir. Alors, je ne dormais plus la nuit, voilà, j'étais très mal. Et bien sûr, je me suis dit, qu'est-ce qui arrive? Alors, on passe par différentes étapes. On se dit, la première, je pense, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose devant Dieu qui n'est pas droit? Est-ce que, voilà. Et puis, je m'éprouvais, je me sondais, je voyais rien. Je demandais autour de moi, je dis, il y a quelque chose qui, bon. Et puis, rien n'est revenu. Et j'ai commencé à avoir d'énormes angoisses, à la limite, des crises de panique. Et même un jour, je suis rentrée dans l'église, en rentrant dans l'église, une crise de panique. Il a fallu que j'arrive à 48 ans pour savoir ce qu'était une angoisse, hein. Et il y avait beaucoup de sœurs dans l'église qui me parlaient et qui se confiaient, qui me disaient, Isabelle, j'ai eu des crises d'angoisse. Alors, je compatissais, parce que je compatissais vraiment, mais je ne savais pas ce que c'était. Et je crois que le Seigneur permet parfois des circonstances, des choses, pour nous apprendre à aider les autres. Et ça fait partie de la formation. Et la dépression, j'entendais autour de moi, j'entendais des gens dépressifs. Et je vous avoue que je ne savais pas comment leur parler, comment les aider réellement. Et ça me dépassait, j'avais beaucoup, je ne les jugeais pas, hein. Je n'ai jamais pensé qu'ils n'étaient pas spirituels parce qu'ils étaient en dépression, je ne l'ai jamais pensé. Mais je ne savais pas vraiment comment aider. Et alors je suis passée par les étapes d'une dépression terrible, avec pas de goût à la vie, avec des angoisses terribles. Et comme on entend des fois, on entend la descente aux enfers. Eh bien, je vous assure, c'est ce que j'ai eu l'impression de vivre, une descente aux enfers, c'est-à-dire être coupée de Dieu. Alors, je n'arrivais plus à lire ma Bible, je n'arrivais pas. Quand je voulais prendre ma Bible et que je lisais qu'il y avait eu un châtiment ou quoi, ça m'effrayait, ça me mettait dans une angoisse terrible. Je ne pouvais pas, je passais devant un poste de télé, je ne pouvais pas regarder la télé. Mais au travers de tout ça, c'est comme si le Seigneur m'avait dépossédé de cette force que l'on a dans la vie. C'est une force de pouvoir profiter des choses, de savoir apprécier les choses, de savoir aimer les choses. Quand on a un enfant, l'amour qu'on peut ressentir pour cet enfant, la joie quand on voit une personne qu'on aime, d'éprouver de la joie quand on la voit, c'est quelque chose de formidable. Ça paraît naturel, hein, qu'on éprouve ces choses. Ce n'est pas naturel, c'est Dieu qui nous les donne. Et d'éprouver de la joie, c'était, je n'arrivais pas. Et j'ai vraiment touché cette dépression. Le Seigneur me l'a décortiquée, me l'a fait vivre. Et aujourd'hui, je sais que je l'ai vécu pour aider les autres. Et quand quelqu'un est en dépression, c'est comme si vous aviez les deux jambes cassées et qu'on vous dit « marche ». Vous êtes incapable. Alors surtout, si quelqu'un est en dépression, ne lui dites pas « allez, ça va, ça, bouge-toi ». Ne dites jamais ça à quelqu'un qui est en dépression. Parce qu'il a conscience, il a envie de se bouger. Il le sait, mais il ne peut pas. Et toutes ces étapes, je les ai vécues avec un mari formidable, des enfants super. Non mais c'est vrai, pour vous dire que j'ai pas vécu, voilà, j'étais pas dans une situation où je trouve qu'il y a des gens pires, hein, qui sont en dépression, qui ont pas tout ça. J'avais mon mari, j'avais mes enfants, j'étais heureuse et j'ai vécu ces étapes. J'en suis arrivée à l'anorexie. C'était terrible. Et je savais, je voulais manger. Mais on n'arrive pas en dépression, on n'arrive pas à commander à notre esprit. C'est terrible. La dépression est une vraie maladie. Donc, pendant ce temps-là, je me suis fait aider avec un médecin chrétien qui m'a expliqué ce qu'était la dépression. Et le Seigneur a mis des personnes comme ça sur mon chemin pour savoir comment on traite une dépression. Et la finalité, c'est que, voilà, si quelqu'un est en dépression, moi je pense que pour aider quelqu'un, il faut y être passé. C'est quelque chose, tant qu'on n'y est pas passé, je crois qu'on ne peut pas le comprendre. C'est terrible, mais voilà, c'est comme ça. Mais dans ces moments-là, si quelqu'un passe par des moments comme ça, ce qui m'a tenue à moi, c'est de me dire que Jésus m'aimait. Ça a été une encre. Ma fille écoutait une chanson, elle était dans la salle de bain un moment, et j'étais, mais l'impression, vous savez que vous êtes dans une tempête et vous n'arrivez pas à sortir la tête hors de l'eau. Vous n'y arrivez pas, vous vous noyez. Et c'était un chant qui disait « Son amour me ramène au port ». Et je suppliais Dieu, je dis « Quand est-ce que je vais rentrer au port ? Je suis dans la tempête, je suis dans la tempête. Quand est-ce ?» Et tout ça, le Seigneur m'a formé. Toutes les épreuves, toutes les tempêtes que l'on vit, elles ne sont pas pour rien. Dieu ne joue pas avec nous. On est ambassadeur sur cette terre. Le Seigneur revient bientôt, il y a des temps difficiles qui arrivent. Tous les gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas dans le Seigneur, vivent des choses terribles et horribles. Comment est-ce qu'on peut être en mesure de les aider si on ne comprend pas, si on ne cerne pas vraiment leurs besoins? Donc, le Seigneur, il nous forme, mais il nous travaille. C'est dur quand on y passe, mais on apprend quelque chose. Ça nous dépouille de certaines choses et ça nous rend plus forts. Et si vous êtes dans la tourmente, si vous êtes dans la tempête, dites-vous que vous en sortirez plus fort, que ça produit une œuvre. C'est dans la tempête, c'est ce qui nous tient. Il faut savoir qu'il y a un but à tout ça. Et quand on est au plus mal, se dire que Jésus nous aime. Ne jamais douter et revenir sans arrêt à la croix. Si vous voulez aider quelqu'un qui est en dépression, répétez-lui encore que Dieu l'aime. Répétez-lui qu'il va s'en sortir, qu'il y a de l'espoir. Dites-lui, ceux qui ont vécu, parce que après j'ai appris dans l'église qu'énormément de personnes étaient passées par la dépression et qu'elles n'en avaient pas parlé parce qu'elles avaient vécu ça, peut-être elles se sentaient jugées par les autres, elles avaient l'impression qu'on les prenait pour des gens qui n'étaient pas spirituels. On peut être spirituel et passer par une dépression. On peut être aimé de Dieu et avoir le sentiment de tout faire comme il faut et passer par ces moments. Parce que on n'est pas de ce monde. L'éternité, ça va être fabuleux, ça va être merveilleux. Mais ici, on est ambassadeur et on a un travail à faire. Et on a donné notre vie à Dieu. Eh bien, il nous faut accepter la formation de Dieu. Mais ça a un but précis. Sachez que ça a une fin. La tempête, et comme l'a dit mon mari ce matin, quand on voit ces hommes de Dieu, ils sont passés par des moments mais terribles. Nous, on les lit, on a l'habitude de les lire, mais si on... Après, quand j'ai repris la lecture, et quand il y avait les mots comme l'angoisse, hein, des choses. Avant, je le lisais, mais maintenant, je sais vraiment ce que ces personnes ont ressenti. Alors, il m'a fallu 48 ans pour savoir ce que c'était une angoisse. Merci Seigneur, parce qu'il y a des personnes, elles ont vécu des angoisses beaucoup plus jeunes. Mais voilà, si vous passez par des moments difficiles, et puis n'ayez pas honte, on n'a pas à avoir honte. Réclamez le secours de Dieu. Quand vous êtes dans l'église, réclamez la prière de vos frères et sœurs. Et quand j'étais mal, les jeunes ont fait une scénette pour les personnes âgées à l'église, et ils ont imagé le combat spirituel. Alors ils étaient avec des épées, ils livraient le combat, et puis ça m'a marqué parce que le Seigneur parle, il nous donne toujours une parole à laquelle nous raccrocher dans ces moments. Et c'est comme une bouée, il faut s'y attacher, s'y raccrocher. Et ils livraient le combat, donc ces jeunes, et puis il y avait quelqu'un qui était à terre, qui avait été touché par l'ennemi. Et les jeunes ont entouré la personne qui était à terre, et ils sont venus le rechercher et le tirer pour le mettre à l'écart. Et cette image, elle était merveilleuse pour moi, parce que quand on est à terre, ça peut arriver qu'on soit à terre. Quand on est à terre, on a les frères et les sœurs qui doivent être là pour venir nous chercher, nous mettre à l'écart et nous aider à nous soigner. Parce qu'on est dans une étape où on ne peut plus livrer le combat. Alors, il faut accepter quand on est comme ça qu'on ne puisse plus livrer le combat. Il faut accepter le fait qu'on soit à terre. Parce qu'il y a eu des combats qui ont été difficiles et qu'on soit à terre. Il faut accepter le fait que des frères et sœurs viennent nous aider à nous relever et à nous... Il nous protège de l'ennemi. C'est pour ça que même si on est mal, eh bien, il faut s'efforcer de venir dans la maison du Seigneur. Il faut toujours continuer. Si on n'arrive pas à lire sa parole parce que c'est dans nos pensées, parce que c'est se faire violence au niveau des pensées, on n'a pas la force. Il faut quand même, l'Esprit de Dieu parle. Et quand même, il y aura un mot, il y aura une parole, il y aura quelque chose. Il ne faut pas rester seul. Il y a des moments de désespoir. Alors on a parlé du suicide, on l'a évoqué un peu. C'est vrai qu'il y a des idées où... Moi j'étais chrétienne et affermie, et je savais que cette idée de suicide, je savais que ma vie elle appartenait pas à Dieu, et que je n'avais pas le droit de mettre fin à ma vie, d'attenter à ma vie. Et je me disais, si c'est ça, parce qu'on a l'impression, on a l'impression d'être coupé de Dieu et de ne plus avoir... C'est comme si on m'avait pris mon Dieu. Je ne trouvais plus, je ne le voyais plus, on m'avait pris mon Dieu, c'était terrible. Eh bien, dans ces moments-là, il faut se faire aider. Il faut avoir des amis fidèles, des amis qui comprennent ça, et avoir le courage de prendre son téléphone et de dire « ça ne va pas, prie pour moi maintenant ». Parce qu'on est dans un état de faiblesse et l'ennemi attaque aussi. L'ennemi, là, il nous sait à terre. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Église. Et alors, si vous êtes passé par un moment comme ça, faites-vous aider. Ne restez pas isolé. Faites-vous aider. Parlez-en à votre pasteur, à des amis que vous savez prier avec. Ou si vous ne pouvez pas prier, ne culpabilisez pas. Demandez la prière. Voilà. N'ayez pas honte. Surtout, n'ayez pas honte. Ce sont des choses qui arrivent. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas spirituel. Et pour vous qui ne connaissez pas cette maladie, ne bousculez pas quelqu'un qui passe par là. Aimez-le. Prenez patience. Vous savez, ne cherchez pas les mots. Dites-lui tout simplement, qu'est-ce que tu ressens ? Dis ce que tu ressens. On va prier pour toi. Et des fois, la personne, rien que de lâcher un peu, dites, on t'aime, on est là. On sait que c'est pas des histoires. Tu le vis vraiment, tu es dans une réelle souffrance. On t'aime. Et donnez-lui de l'espérance, de l'espoir. Moi, je me suis entourée de personnes qui étaient passées par des moments difficiles comme ça, qui m'ont dit « je m'en suis sortie ». On est heureux. Quand on voit quelqu'un qui s'en est sorti, on dit « il y a de l'espoir ». Mais quand on en sort plus fort. On en sort plus fort. Et c'est ce qu'il faut se dire. Dieu ne nous permet pas des épreuves pour rien. On apprend pour les autres. Il y a toujours un but, c'est pas pour rien. Moi j'ai dit, Seigneur, je veux apprendre, que j'apprenne vite, donne-moi les clés. Je disais, Seigneur, donne-moi les clés. On a l'impression d'être en prison, donne-moi les clés, j'arrive pas à trouver la sortie, donne-moi les clés. Et puis, on ressent quand même des choses. Aide-moi, et pourquoi ? Il y a des choses à faire. Moi je sais qu'au travers de ça, j'ai dit, je veux que ça serve à quelque chose. Il y a une finalité spirituelle, il faut que ça serve, il y a un but. Alors j'ai dit à mon mari, j'ai dit, il faut qu'on en parle à l'église, il faut qu'il y a quelque chose qui soit fait, il faut qu'un pasteur vienne traiter le sujet. J'ai dit, les gens, moi j'ai dit, après avoir connu ça, j'ai dit, mais il y a des gens qui vivent ça. Moi, j'étais heureuse, j'avais un mari, des enfants, j'avais des amis chrétiens qui sont venus de suite, qui m'ont dit, toi Isabelle, ça, voilà. Mais j'ai été aidée, j'ai dit, mais il y a des gens, ils ne sont pas aidés, ils n'ont rien, et c'était terrible pour moi de laisser des gens comme ça. Alors, il y a eu un site, il y a un pasteur qui est venu, qui a traité, on a envoyé ça sur le site, et je dis, mais s'il y a quelqu'un qui est dans les dépressions, au moins il aura, si la personne autour, il peut aller sur un site, ça peut sauver des vies. Parce qu'à des moments, ça peut vite basculer. Et il faut être vrai, dans nos églises, ça arrive. Donc, il faut s'armer. De plus en plus autour de vous, regardez, ouvrez les yeux, qui n'est pas passé par la dépression. Moi, j'ai été stupéfaite après être passée par là, le nombre de personnes dans l'église qui m'ont dit « on l'a vécu seul, on n'osait rien dire, on avait peur d'être jugé, on avait peur, voilà. » On ne doit pas être seul dans une dépression. On ne doit pas être, c'est terrible, on ne doit pas être seul. Voilà, alors surtout, donnez de l'espérance. Dites-leur que ça va aller, qu'ils vont s'en sortir. On en sort d'une dépression. Mais il faut se faire aider, il faut se faire aider. Voilà. Juste une petite chose. Pardon. Une petite chose, il y a des paroles qui délivrent aussi. Il y avait un chant, il y a un chant qui dit, quand la mer se déchaîne, quand le vent souffle fort, crois en Jésus, bon, il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit je te délivrerai. Et pour moi, je me suis pris cette parole en pleine figure parce que ça veut dire, il n'a pas dit, ça veut dire que moi, je pensais, quand on se voit au bord du gouffre comme ça, on a l'impression de couler, mais finalement, Dieu, les mots qu'il a dit, c'est « Je te délivrerai ». C'est ça. Et quand on est en détresse, on dit « Je coule, je coule, je coule ». Mais ce n'est pas ces mots-là. Il n'a pas dit, hein, il a dit « Je te délivrerai ». Pour moi, je me le suis pris en pleine... Mais c'est des paroles, des fois. Alors les chants, c'est merveilleux. Travailler au chant, parce que le chant, des fois, on les entend et ça libère. Merci Seigneur pour les chantres et pour les musiciens.